production podcast.
Essaye ça.
Hey, salut les magiciens, bienvenue à Terrain Basique, le plus québécois des podcasts sur Magic, où on se gêne pas pour dire des tabarnak puis flipper la table quand il faut. Hein? Et là, je vais vous présenter la toune de la semaine, c'est la toune de G.I. Joe Atlantis Factor.
Ouais. C'est une toune de NES où ce que tu contrôles les G.I. Joe. Les cobras ont fait ramener l'Atlantis à la surface de l'océan. Fait que là, les G.I. Joe, ils doivent infiltrer l'Atlantis pour déjouer le plan des cobras. La raison pourquoi j'ai pris cette toune-là, c'est parce qu'aujourd'hui, on va parler de Ixalan, qui est un set de Magic basé autour du concept d'une civilisation disparue.
Et vous venez d'entendre Jason Keys.
Bonjour, bonjour.
Notre sphinx.
Oui.
Notre archiviste.
On peut dire ça comme ça.
Ben, en tout cas, tu connais ça en maudit, lore.
L'érudit de Magic.
On va parler du lore d'Ixalan en fin d'épisode.
Puis on est accompagné aussi d'Andy Jacques.
Oui, allô.
Ça va bien?
De grand retour. Oui, ça va très bien, vous autres.
Ben ouais. Hey, comment ça, Tommy est pas là?
Je sais pas, moi j'ai reçu un texto comme quoi qu'il s'en allait dans un camp de réhabilitation à propos des Flat Earthers.
Ah ouais?
Pas trop compris.
Ah, il était là-dedans, lui?
C'est de la réhabilitation. Fait que je sais pas à quel point s'il est réhabilité pour devenir un Flat Earther ou contrer les Flat Earthers.
Oui, il réagit tout le temps bizarre quand on y en parle.
Ça, c'est clair.
Oui, oui. Encore, on va suivre ça de près.
Puis c'est ça, aujourd'hui, on va parler d'Ixalan et de draft. Parle-nous de ça, Andy.
Bien, on a drafté justement récemment. Notre dernier draft a été Rivals of Ixalan parce que c'était une des boîtes qui coûtait le moins cher. Où est-ce qu'on l'a acheté? Puis c'était le fun, Rivals of Ixalan. Nos dernières expériences de draft étaient avec Born of the God et c'était pas une expansion. Super le fun à jouer Born of the God en draft.
Non,
pour des raisons évidentes, parce que ça a l'air qu'il est en synergie avec
Theros. On avait drafté aussi un Unstable.
On a parlé dans l'épisode 16. Ouais, ouais. Non, pas là-dessus.
Non, c'est ça. Mais Rivals avec Ixalan, c'était vraiment intéressant. Je pense que collectivement, tout le monde, on était neuf. Tout le monde a eu vraiment beaucoup de plaisir.
Oui, j'ai vraiment eu beaucoup de fun. C'est pas parce que je suis arrivé premier.
Ouais, ben justement, on a le gagnant du draft et le deuxième gagnant ou le deuxième perdant. Le premier perdant du draft qui est moi. Toi, t'as gagné avec quoi donc?
Ben, comment ça s'est passé? C'est que j'ai ouvert mon premier booster. Mm-hmm. Puis la première carte que j'ai pognée, c'est...
Profane Procession.
C'est ça, c'est une carte qui coûte un noir, un blanc, un colorless. C'est un Legendary Enchantment. Là, quand elle est en jeu, tu peux taper 5, dont un noir, un blanc, pour exiler une target creature. Puis quand tu as exilé 3 créatures avec elle, tu peux transformer l'enchantement, ça devient un land.
Oui, parce que dans Ixalan, ils ont des enchantements qui flippent en land. C'est-à-dire qu'une fois que tu as atteint certaines conditions, tu as fait la quête, dans le fond. Tu tournes la carte de bord, puis de l'autre côté, c'est un Legendary Land qui fait d'autres choses.
Ouais, ben continue. C'est ça. Quand tu es rendu un land, tu peux taper 4 et le land, tu mets une créature que tu as exilée avec ton enchantement en jeu sous ton contrôle.
Ouais.
Bref, j'ai pogné ça. C'est ma première carte. Fait que ça a comme orienté mes choix d'après. Puis là, plus le draft avant.
J'aime ça le concept de cette carte-là, hein, parce que c'est la Profane Procession, c'est comme un enterrement. Tu sais, il exile une target créature, il la met dans un tombeau, que ça flippe. Tu peux jouer toutes les cartes que tu as exilées
dans le tombeau.
C'est tout ce que tu as mis dans le tombeau. C'est vraiment cool.
Le heart, il est hot aussi.
Oh, le heart est vraiment hot. C'est quoi d'autre que tu jouais avec ça?
Tu as
fait un vampire noir et blanc. Hein?
Oui, finalement, j'ai mis du spot removal en masse. Puis, tu sais, j'ai été chanceux aussi sur les picks. Là. J'ai eu plus de rares que de boosters que j'avais au départ.
Ouais. T'as-tu eu des Ravenous Chupacabra?
Oh oui, j'en ai mis deux.
Ça, c'est la meilleure carte dans Revolt, selon moi. Ouais. Deux colorless, deux noirs pour un 2-2. Quand elle arrive en jeu, tu détruis une target creature.
Ouais.
Fait que ça, c'est un removal et une créature 2-2.
Ça fait les deux affaires que tu veux, tu sais.
Ouais.
C'est juste que c'est pas un vampire, mais le reste, c'était pas mal.
Orienté autour des vampires.
Ouais, ouais.
T'avais le Légion Lieutenant qui donne +1/+1 à tous tes vampires.
Ouais. Moi, je l'avais une fois.
Ouais. Je pense que t'avais aussi deux Dust Légion Zilot qui est un vampire 1-1, mais quelqu'un qui meurt, je pense. Donc, quand il arrive en jeu, tu... Non, c'est quand il meurt, tu piges une carte.
Non, quand il arrive en jeu, quand tu perds un point de vie, puis tu piges une carte.
Ah oui, t'as remplacé.
Ça fait piger une carte.
Oui. T'avais un bon removal dans Revolt of Ixalan, c'est Bafflingen, là, un colorless, un blanc, qui est un enchantement. Tu exiles une créature de l'autre. Tu sais, pour juste deux, ça coûte des pédales. Il faut que c'est un power 3, un casting cost de 3 au moins.
Oui.
Fait que même Ixalan, c'est tous des petits, à part les gros dinosaures. Non. Toi, qu'est-ce que t'as drafté, Andy?
Sérieusement, la seule personne qui m'a vraiment comme bloqué, c'est François. Ça a été le seul deck vraiment qui a été problématique.
T'as fini deuxième, toi, là?
J'ai fini deuxième. Et puis on était égal dans le sens que on était égal, on a dû faire un autre. Comme une finale, si on veut. C'est le seul. Le deck à François, c'était le seul deck qui était vraiment problématique pour moi. La première carte, moi, j'ai pigé, c'est le Primal Dinosaur, là,
Italie.
En rouge, Italie. On va aller la chercher, là, justement.
4 colorless, 2 rouges pour un 6-6.
Exactement.
Legendary Dinosaur. Ouais. À chaque fois qu'il attaque, tu exiles le top carte de
tous les joueurs.
En draft, t'es 1 contre 1. Puis tu peux caster. Dans le fond, tu casses les créatures de ton adversaire.
Sans payer leur mana cost.
Sans payer le mana cost. Hey, c'est cochon.
Ben, c'est pas les créatures, c'est toutes les cartes sauf des lames.
Ouais.
Fait que je m'en suis servi une fois.
C'est
on
beaucoup joué en Commander, ça aussi. Italy,
sûrement,
Primal Storm.
Ouais, mais tu sais, c'est le mana cost de 6.
Mais là, ça m'a amené dans une dynamique de Enrage et de dinosaures, si on veut. Fait que moi, j'ai joué rouge-blanc. La carte principale que j'en avais 3 dans mon deck, c'est le Forerunner of the Empire, qui est une créature 1-3 humain soldat. Et quand on la met en jeu, on peut aller chercher la bibliothèque pour une carte de dinosaure. On la montre aux gens, on la met sur le top. C'est ça, on va la piger au prochain tour. Et à chaque fois qu'un dinosaure entre en jeu sous mon contrôle, ça fait 1 point de dégâts à tous les créatures.
Donc ça active le Enrage.
Ça active les Enrage.
J'avoue que j'ai eu chaud quelques fois.
T'avais Imperial Ceratops, je pense.
Entre autres.
Parlant de, c'est un 4 colorless, un blanc pour un dinosaure 3-5. Chaque fois qu'il reçoit du dégât, tu gagnes 2 de vie.
Celle-là m'a aidé dans des situations parce que mon deck était très lent à sortir. Puis c'est peut-être pour ça le problème avec François. C'est que François, lui, ça allait vite. Puis en plus, il tuait mes créatures parce que c'est un removal.
Ouais.
Tandis que moi, ça me pouvait me permettre d'attendre un 5-6 tours où est-ce que je pouvais être à 4 points de vie. Puis là, la dynamique partait avec 5 lands. Puis évidemment, il y a eu le Majestic Helioptérus qui, dans le fond, comment je l'appelais?
Pterodactyle.
C'était mon Aladdin dinosaure qui montrait.
Parce qu'il donne flying aux autres qu'à chaque fois qu'il attaque, right?
À un autre dinosaure. Il amenait un autre dinosaure voir un nouveau monde.
Ouais, c'est une bonne façon de le décrire.
Puis je chantais ça à chaque fois que j'attaquais avec un autre dinosaure. Un nouveau monde.
Fait que
c'est un petit peu ça ma dynamique. Les Enrage, c'est quand même très fort parce qu'il y a plusieurs cartes. Je sais que dans le rouge, il y en a une qui fait des. Il y en a une qui fait 4 points de dégâts à une créature. Non, 5 points de dégâts à une créature de l'ennemi quand il Enrage. Il y en a un autre que c'est 2 points de dégâts au player. Donc la dynamique Enrage a été très forte de mon côté. Et ça m'a permis de remporter toutes mes victoires, sauf les 3 contre François. Les 2 contre François. C'est, regarde, justement, le Frill Death Spitter, j'avais ça. Whenever Frill Death Spitter is dealt damage, ça crée 2 points de dégâts à Target Opponent. J'ai bien aimé la dynamique d'Enrage.
C'est vraiment le fun.
C'est ça. Moi, je vous recommande, si vous voulez faire des drafts, Rival avec Ixalan, c'est dans les moins chers de ce temps-ci.
Oui.
Puis c'est intéressant. Puis en septembre, là, avec Standard qui va mouver, tout ce qui est Ixalan va coûter clairement moins cher. Ça va être super le fun à faire.
Nice.
Un bon côté des rotations. Donc, je pense
qu'on... On va-tu au Beat à Bonde?
Ben oui, on va aller au Beat à Bonde, puis on va vous présenter la carte de la semaine. Donc, la carte de la semaine est une présentation de l'Abyss au 7355 Boulevard Saint-Michel, au métro Saint-Michel. Donc, la carte de la semaine, c'est...
Qui dit Ixalan dit Immortal Sun.
Oh oui.
C'est Immortal Sun. J'en avais beaucoup parlé, là, notre épisode sur le War of the Spark, là. L'épisode 28. Vous retournerez voir ça, là. C'était dans le plat de Nicole Bolas. C'est un artefact qui shut down les Planeswalkers. Puis tout le set d'Ixalan est bâti autour de cette carte-là, dans le lore. C'est un artefact légendaire pour 6 colorless. Tous les joueurs autour de la table peuvent pas activer les habilités de leur Planeswalker. Au début de ton draw step, tu piges une deuxième carte. T'sais, dans le fond, tu piges une carte, puis tu en piges une deuxième. Dans le fond, tu piges deux cartes par tour. Toutes tes spells te coûtent un colorless de moins à caster. Et toutes tes créatures gagnent plus un, plus un.
C'est ça, ça.
C'est la carte de la semaine parce que qui dit Ixalan dit Immortal Sun.
Mais c'est
et
fort,
aussi, c'est très fort. Jouer ça en Commander.
En tout,
là, moi, je le mets dans tous mes decks de Commander parce que pour les trois raisons que j'ai données. Surtout son qui fait que tu piges tout le temps deux cartes. Fait que ouais. En plus, il réduit le coût de tes spells. Je le joue aussi en standard. Je le sideboard. Tu peux jouer dans toutes les couleurs de deck parce que présentement en standard, bon, il y a des Planeswalkers partout.
Ouais.
Fait que les Zesty de Teferi, vous pouvez les shot down avec votre Immortal Sun. C'est à ça que ça sert.
Ouais, mais faut que tu aies du mana ramping en masse, par exemple.
Oui, si tu joues pas ça dans un deck aggro mono rouge. Mais dans n'importe quel deck mid-range ou contrôle, il est colorless. Fait que n'importe qui peut le caster.
Ça peut aller n'importe
puis où. Moi, je le joue là, en Commander. Beaucoup de fun avec. Dans le temps qu'on jouait encore Brawl, je le mettais aussi, format Brawl. C'est quasiment un couteau suisse que tu peux mettre dans tous les decks. Ça va tout le temps être bon.
Dans des decks contrôle aussi, vu que tu peux acheter du temps.
Ben oui,
ces decks-là.
Parce qu'il te fait piger des cartes, puis tes spells te coûtent un de moins. Puis tu peux jouer dans des decks mid-range. Moi, je le joue dans mon deck de vampire. Toutes tes créatures gagnent plus.
Ça ressemble quasiment à un emblème de Planeswalker.
Ouais. Ben, mais bonifié, genre.
Oui, là, je vais en parler plus tard après le Beat a Bone. En fait, le Immortal Sun a été créé à partir du Spark d'un Planeswalker.
Mais y a-tu moyen de puis j'imagine qu'il doit y avoir des cartes qui nous permettraient de sortir plus rapidement.
Là. Oui, t'as plein de cartes que tu vas chercher des artefacts. C'est super le fun. Puis dans Ixalan, il y a aussi des cartes qui volent les artefacts. Fait que ça, faut que tu fasses attention. Des fois, tu peux perdre ton Immortal Sun. Mais ça arrive en standard, ça arrive plus souvent. Puis en Commander, c'est gérable.
Fait que on vous retrouve à l'autre côté du Beatabone.
L'autre côté du Beatabone.
Et nous sommes de retour avec nos amis. Donc, Jason, je pense que tu voulais nous introduire dans un merveilleux plan de pirates et de dinosaures.
Si vous aimez pas Lore Magic, fermez ce podcast immédiatement. Parce que...
moi, j'avoue que c'est une des affaires que j'aime. Puis je suis content qu'ils prennent la tangente Lore. Je pense que c'est le bon move à faire dans un monde comme aujourd'hui où est-ce que les histoires, le MCU, on garde le Lore, on prend des affaires intéressantes, on connaît les
Planeswalkers. Ixalan et Revolve of Ixalan, parce qu'il y a eu deux sets dans le fond qui se passent sur Ixalan. C'est un des sets les plus dégoulinants de storyline et de background. By the way, je vais parler quand même de l'impact de ces cartes-là sur Standard. On va parler un peu de mécanique de jeu aussi, mais ça va être surtout le Lore de Ixalan que je trouve. Le set va rotate out en octobre, puis je trouve ça triste. C'est un set que j'aimais beaucoup.
Ça va revenir.
Ça va revenir un jour. Mais
il y a quelque chose qu'on comprend bien dans Magic, c'est que tout est un cercle.
Ixalan, c'est drôle parce que Mark Rosewater, dans son podcast, il parle comment Ixalan a été créé. C'est un moment donné, il faisait un brainstorm autour de la table à Wizard of the Coast. Puis t'as une des filles qui s'occupe de tout ce qui est le creative side de Magic. Elle a dit on devrait faire un set, c'est des conquistadors vampires qui traversent l'océan pour trouver les cités d'or. Puis là, les cités d'or, c'est comme vu c'est un continent disparu, c'est plein de dinosaures puis sont contrôlés par des Aztèques. Ça, c'est, tu veux définir Ixalan en une phrase, c'est exactement ça. C'est des vampires conquistadors contre des Aztèques sur des dinosaures.
C'est nice.
C'est exactement ça.
Ah, puis il y a des pirates entre les deux.
Il manque juste que les dinosaures pitchent des lasers par leurs yeux, puis c'est voilà.
C'est tout ce qui manque à ce set-là.
Il y a des dinosaures qui font voir un nouveau monde.
Donc, sur le Ixalan, c'est pas le nom du plan, c'est le nom d'un continent sur ce plan-là. Le plan n'a jamais été nommé, non. Ixalan, c'est le continent là, tropical où il y a des dinosaures dessus. Si vous regardez, là, ils ont fait une carte du monde de Ixalan. Tapez Ixalan map, vous allez voir, là, c'est vraiment le continent. Il a la forme d'un impact de météorite. Puis il y a une carte dans Ixalan qui représente un météorite, puis ça fait 20 dégâts à target player.
Ça veut dire que c'est un plan plan-là est beaucoup plus grand. Là,
oui, je vais y arriver. Là,
va revenir là-dessus.
C'est sûr. Mais Ixalan, c'est le continent où il y a les dinosaures dessus. Puis c'était le set qui a fait briller beaucoup de dinosaures en standard, notamment. On a vu là, dans les decks de mono blanc, là, il y avait le Snubhorn Sentry qui était un 0-3 pour un blanc. C'est un genre de triceratops. Si tu as le City Blessing, c'est-à-dire 10 permanents en jeu, il devient un 3-3 pour un blanc. Là, c'est vraiment un très bon...
Ouais, mais faut que tu te rendes là.
Ouais, mais dans un deck de Winnie Blatt, à chaque tour, tu chies plein de petites créatures.
Généralement, tour 4-5, tu l'as, ton Ascent.
Oui, généralement. Puis tu vas en mettre 4 dans ton deck.
Puis Ascent, ça a été créé pour Ixalan.
C'est dans Rival of Ixalan. C'est quand tu découvres la cité
d'or.
C'est
dans Rival de Ixalan. Ouais. C'était même pas dans Ixalan.
Non, mais je couvre les deux cette fois-ci. Je couvre aussi Rival. Okay. Une autre carte là, qui était beaucoup jouée en standard, mais aussi en Commander. Si vous jouez du vert en Commander, là, vous n'avez pas de raison de ne pas jouer Trashing Brontosaur. Brontodon, parce que c'est pas des brontosaures, ils ont modifié le nom un peu, s'ils disent des brontodons. Mm. C'est un 3-4 pour 3 verts, mais 2 verts, un colorless, donc tu peux le casser au tour 3. Ce qui est le fun, c'est que tu peux le sacrifier pour détruire un artefact ou un enchantement.
Quand même.
Fait que c'est un disenchant sur patte. C'est un 3-4, là, tu sais, je veux dire 4
Qui coûte 4 en tout, hein, c'est ça.
Il coûte 4 en tout,
pour
mais je veux
désenchanté,
dire, c'est que tu le gardes en jeu pendant longtemps. Puis l'autre là, qui me fait vraiment chier en standard, c'est le Carnage Tyrant, le gros
Tyrannosaur.
4 colorless pour 2 verts, un 7-6 qui peut pas être countered. Il est Trample Explode.
Quand même, hein.
Lui, le seul moyen de s'en débarrasser, c'est de détruire toutes les créatures.
Ou de l'affronter en combat, mais c'est un 7-6 avec Trample. Moi, je gagne rarement une game une fois que Carnage Tyrant est casté.
Je le gère assez bien avec Esper Control, pareil.
Ouais. Ben, tout ça pour dire que les dinosaures, c'est les créatures les plus anciennes de Ixalan, et ils sont encore parmi nous. Donc, les humains les ont domestiqués. C'est ça la différence là, sur Ixalan. Il y a 2 tribus sur le continent d'Ixalan, les genres d'Aztèques qui sont les humains et les Merfolk. Les Merfolk sont dans le vert et le bleu. Les humains, eux, sont dans le rouge, le blanc et le vert. Donc les dinosaures sont dans le blanc, le rouge et le vert aussi. La carte le Growing Rite of Iltimok, qui était un Legendary Enchantment. Je vais mettre les cartes de l'épisode sur le Facebook et dans les commentaires, comme d'habitude. Moi, j'adore cette carte-là. Growing Rite of Iltimok, où on voit les Aztèques et les Merfolk qui font une... Ça s'est passé dans le passé. Ils ont fait une alliance. Après qu'il y a eu l'impact de météorites, là, on voit, on voit que c'est comme désertique autour d'eux, puis ils font un genre de cercle de hippies. Oui, sur le artwork de la carte. Là. Tu regardes les 4 premières cartes de ton library. Tu peux montrer une créature que tu vas la mettre dans ta main. Puis, au fin de ton end step, si tu as 4 créatures ou plus, dans le fond, si tu as réussi à allier tes Merfolk et tes humains, ton Legendary Enchantment, il flippe et devient le Iltimok Cradle of the Sun, où soudainement, on voit que c'est la même vallée puis c'est plein de jungle partout. Fait que c'est dans le passé d'Ixalan, les humains et les Merfolk travaillaient ensemble.
Add une forêt pour chacune des créatures que tu contrôles, puis tu en contrôles 4 précédemment, automatiquement.
C'est très
ça me fait penser à une vieille carte, ça.
Laquelle?
Cradle...
Le Sonneur des Elfes?
Il me semble qu'il y a...
Oui, il y a un autre Cradle qui c'est ton nombre de créatures. Ouais. C'est le... Dans Urza Saga, là, c'est le... Ah, j'ai un blanc de mémoire. Mais bon, bref, tout ça dans storyline de Ixalan, dans le passé, les Merfolk et les humains se sont alliés ensemble. Ils ont créé ensemble la cité de Oskanta, qui est les cités d'or, dans le fond. Pendant des siècles et des siècles, il y a comme le Pillar of Origin, où ce qu'on voit, vous avez remarqué, là, comme les Jade Light Ranger, tous les Merfolk dans Ixalan sont recouverts de jade, le métaux précieux vert fluo un peu. Là. Puis tandis que les Aztèques, eux, c'est des trucs en or. Fait que Pillar of Origin, on voit que c'est un...
On mélange les
c'est
deux,
un artefact fait avec les deux. Ça, c'est tu choisis une tribu quand ça arrive en jeu. Hein, tu choose a creature type, puis ça fait un mana... de ce casse-là. Moi, ce que j'aime beaucoup d'Ixalan, c'est que ça montre, selon moi, mon aspect favori dans les histoires de Magic, c'est l'impact que les Planeswalkers ont sur les planètes à mesure qu'ils visitent. Souvent, ça a des impacts là, qui peuvent durer des millénaires après leur passage. J'avais mentionné dans l'épisode 28 comment Azor, le chef des Azorius, le Planeswalker des Azorius, il avait fait un pacte avec Yugin, le dragon Planeswalker Yugin, pour tuer Nicol Bolas. Mais en fait, c'est de l'emprisonner sur Ixalan avec le Immortal Sun, qui était notre carte de la semaine que j'ai déjà parlé. Fait que Azor, ce qu'il a fait, c'est qu'il était. Ça, c'était le Planeswalker qui a créé la guilde des Azorius sur Avnica. Il est allé sur Ixalan, il a sacrifié son Spark, c'est-à-dire qu'il était plus un Planeswalker. C'est pour ça que Azor the Lawbringer, le Sphinx dans Revolt of Exalan, c'est un Legendary Sphinx et non un Planeswalker. Il a créé le Immortal Sun, puis le plan c'était que Yugen allait attirer Nicol Bolas sur Exalan et Nicol Bolas n'allait pas être capable de quitter, parce qu'on voit sur la carte Exalan.
Non, pas sur Exalan, sur le plan où est-ce qu'Exalan est.
Ouais, ben là,
attends, là, Azor, il voulait sacrifier le plan dans le fond là.
Et lui-même. Le but de Azor là, c'est de stopper Nicol Bolas.
Ouais, c'est
un paladin, il est blanc et bleu.
Attends, là, il a pas demandé aux habitants d'Exalan s'il était down avec ça. Là.
Ouais, je pense que le combat, le consentement.
C'est ça le concept.
C'est un bleu blanc, il se pose juste être fin.
Ouais, là, mais le bleu blanc, et des fois, c'est la fin justifie les moyens.
Ouais, j'ai remarqué.
Parce que dans
Dovin, il est bleu blanc.
Dans le set Fate Reforged, là, qui était sur Tarkir, où est-ce qu'on voit Nicol Bolas sur la carte qui affronte Yugen, puis finalement, c'est Nicol Bolas qui gagne, donc il tue Yugen. Ça l'a fait chier le plan. Le plan de Azor d'emprisonner Nicol Bolas. Ça l'a fait en sorte que Nicol Bolas n'est jamais venu sur Exalan parce qu'il a tué Yugen. Puis Azor s'est retrouvé emprisonné dans son propre piège, dans le fond.
Oh.
Donc, là, après ça, il s'est dit, ben, qu'est-ce que je vais faire? Fait qu'il a confié sur le continent. Ça, c'est l'autre continent sur ce plan-là. C'est le continent de Tezeron.
Okay. C'est la vieille. On connaît l'autre continent.
Oui, ça apparaît sur plusieurs cartes. C'est le continent d'où viennent les vampires blancs et noirs.
Okay. Tezeron, es-tu nommé sur des cartes?
Oui.
Ça me semble,
oui.
J'ai pas entendu.
C'est dans les flavor text.
Okay.
Dans M19, ils avaient sorti la carte, parce que M19 se passait dans le passé.
Mm-hmm.
Ils avaient sorti la carte Daybreak Chaplain, qui a été réimprimée dans M20, by the way. C'est un colorless, un blanc pour un 1-3 avec lifelink. On voit sur le artwork, c'est une humaine clérique, mais ses vêtements, c'est les mêmes que les vampires dans Exalan. Tezeron, c'est comme la vieille Europe là, par rapport à Exalan. Et il y avait un monastère de moines qui vénéraient le soleil. Dans le fond, Azor a amené le Immortal Sun dans ce monastère-là. Il leur a donné le Immortal Sun, puis il a dit « C'est votre job de le garder. » Le problème, c'est que le Immortal Sun, il rend plus puissant. Fait qu'ils sont comme devenus greedy, se sont mis à envahir les pays autour, puis ils ont comme unifié le continent de Tezeron en dessous de leur power. Azor était pas ben d'accord avec ça, fait qu'à un moment donné, il s'est pointé, puis il leur a enlevé le Immortal Sun.
Ouais, ils veulent les libérer, c'est correct.
Il a enlevé le Immortal Sun, puis il l'a apporté sur le continent de Ixalan, l'alliance des Merfolk et des humains. Puis c'est eux qui ont eu la garde à ce moment-là de Immortal Sun. Le problème, c'est que la gang de moines sur Tezeron.
Ils ont fait, ben non.
Ils ont fait comme, hey, c'est comme.
On y a goûté.
Fait que c'est, y a une de leurs leaders, c'est Elenda de Dusk Rose. Elle a fait des pactes avec Immortal Sun, ça représente le soleil, mais t'as le démon dans Ixalan. J'ai un blanc de mémoire, donnez-moi 5 secondes. Comment il s'appelle le démon dans Ixalan?
Il s'appelle Bob.
Non. C'est un démon chauve-souris. Non, c'est un démon chauve-souris qui s'appelle Akladzodz.
Okay.
Donc, c'est un démon qui représente la noirceur, les ténèbres. Elle a fait un pack avec lui. Ça, c'est la carte Ritual Rejuvenation. Deux colorless, un blanc pour un instant qui te donne 4 vies que tu piges une carte. Donc, la carte, ça représente c'est dans le storyline. On voit le dessin. On voit un genre de personne qui se fait sacrifier avec du sang. Mark of the Vampire, c'est un aura. Trois colorless, un noir. La créature devient un +2/+2 et a lifelink. Puis, on voit que le flavor text, c'est aussi, là, ça dit From the Ritual Redemption. Dans le fond, ils ont créé une espèce d'église. Ils sont devenus des vampires, l'aristocratie de Tezeron, Elenda de Dustrose, entre autres.
Okay.
Donc, c'est comme ça que les vampires de Ixalan ont été. De Tezeron, pardon, c'est le vieux continent. Sont devenus une genre d'aristocratie de vampires dont le but est de retrouver le Immortal Sun. Okay. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas encore découvert le nouveau continent. Mmh. Fait que là, ils ont fait des grosses guerres sur ce vieux continent-là. Leur limitation, c'est que... parce que là, tu dis vampire, c'est, dans le fond, ils deviennent des immortels. C'est pas des vampires undead, by the way.
C'est ça.
Ouais, c'est ça. Je vois des vampires en plein jour. Ça se peut, ça, là?
Tu remarqueras qu'on voit jamais le soleil sur leur carte.
Okay.
Ils peuvent sortir le jour, mais sont tout le temps entourés d'une espèce de nuage noir. Okay. On va le voir sur d'autres cartes. On voit sur Call to the Feast, deux colorless, un blanc, un noir. C'est un sorcery, tu crées 3 tokens vampire lifelink. Ça est dit dans le flavor text. Par la loi de notre église et de notre couronne, les vampires ne peuvent seulement se nourrir du sang des coupables, c'est-à-dire les gens déclarés des hérétiques, des rebelles ou des ennemis dans nos guerres. Moment of Craving, l'instant qui fait une target creature -2/-2, puis que tu gagnes 2 vies. Dans le fond, ça présente, tu sais, quand tu bites, t'es un vampire, puis tu bites quelqu'un. Uh-huh. Ça dit The Time of Condemnation is at End. Vu que la partie que je trouve cool là, des vampires d'Ixalan, c'est que ils font ce qui s'appelle le jeûne. C'est, by the way, c'est juste, c'est pas toute la population qui sont des vampires, hein, c'est juste l'aristocratie.
Ouais,
c'est
okay. Les élus.
Sont comme ils font, c'est les chevaliers, là, c'est surtout des clerics puis des knights. Ils font le jeûne, fait qu'ils vont pas bouffer de monde, tu sais, le sang. Puis là, à un moment donné, de temps en temps, là, quand le jeûne est fini, là, ils se font une grosse orgie sanglante où ils déclarent une guerre, des trucs comme ça. Fait que c'est un...
Mais c'est des ennemis, c'est des impurs, c'est des...
Ouais, ouais, c'est ça. Ils bouffent pas leurs propres serviteurs. Il y a des humains qui sont du bord des vampires dans le set de Ixalan. On les voit notamment sur la
des
carte.
Des vrais vampires.
Non, mais qui sont pas tournés vampires. Notamment la carte Squire Devotion où on voit un pauvre humain qui pose... c'est comme un écuyer. Il pose la casse sur la tête d'un vampire. Ou Seeker Squire qui est un human scout pour un 1-2, un colorless, un noir. Quelqu'un rentre en jeu, il explore. Ixalan avait la mécanique explore parce que, comme j'ai dit, c'est tu recherches des continents disparus. C'est une mécanique très forte. Là, tu révèles le top de ton library. Si c'est un land, tu peux le mettre dans ta main. Sinon, tu peux soit le garder sur le top de ta library ou le mettre dans le graveyard, mais tu gagnes un +1/+1 counter. Pas mal toutes les cartes dans Ixalan ont la mécanique de explore. Pour en revenir à mes vampires, c'est ça. Fait que ça devient comme une espèce de puissance en expansion dans le continent de Tezzeron. Le désavantage, c'est ça. On voit là, si tu diriges des rayons du soleil sur eux, tu peux les tuer. C'est comme les réduire. Luminous Bound, c'est 2 colorless, un blanc, un aura. Ancient Creature cannot attack ou block. On voit dans le fond un prêtre humain
de
Ixalan. Non, c'est un reprint. Elle sort dans plusieurs
temps. C'est ça, hein, parce qu'on me sent.
Mais ils refont tout le temps pour l'ajuster à la saveur de la planète. Parce que là, on voit dans le fond un guerrier de Ixalan, tu sais, les humains, alors rouler un vampire dans un rayon solaire. Ou Cleansing Ray, c'est un sorcery en colorless, un blanc, destroy target vampire. Puis on voit un rayon solaire qui le transperce. L'avantage cependant qu'ils ont, c'est qu'ils sont immortels. Il y a beaucoup de cartes là, comme Rockover, 2 colorless, 1 noir. C'est, en fait, c'est s'ils retournent dans un sarcophage, ils peuvent revenir la nuit suivante. Ah, return target creature card from your graveyard to your hand, draw a card. Ou Old Sworn Vampire, qui est un Vampire Knight qui rentre tapé, mais tu peux le caster de ton graveyard.
C'est ça, même si tu le pétais avec un rayon de soleil, il peut revenir après.
Non! C'est le rayon soleil, okay. Ça les exile, comme
ça. Ok, ça les exile. Bon.
La carte Baffling Hand, ça, c'est la carte la plus niaiseuse de Revolt of Ixalan dans son explication. On voit un dinosaure qui renifle la trace faite par un vampire qui est mort. Parce qu'il était probablement touché, exilé par les rayons du soleil. Ah, les gars. Moi, j'aime beaucoup, là, toutes les flavor text des vampires parlent de cette. Tu sais, comme Immortality, ça dit
Mortality.
L'Église nous enseigne qu'il n'y a pas de gain sans perte, aucun triomphe sans sacrifice, et vous ne pourrez no drink of exquisite crimson without a dying gasp. Jouer cette carte-là en Commander, c'est vraiment le fun parce que c'est un enchantement que au beginning de ton upkeep, tu peux changer 2 target players leur total de vie.
Ouais, c'est ça.
Fait que ça, tu peux t'amuser beaucoup en multiplayer avec cette carte-là. donc c'est ça, les vampires, ils se rendent compte que les Immortal Sun a été amené par éventuellement c'est qu'il est sur un autre continent. Fait que là ils deviennent des conquistadors. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de bateaux dans Ixalan, comme Conqueror, Galen, Dust Legion.
On n'a pas vu des bateaux.
Tu es en train de me dire que c'est eux autres qui ont parti la mode des pirates.
Ouais, mais je vais parler des pirates dans 5 minutes, tu vas voir.
Mais les bateaux, on n'a pas vu une,
dans votre draft, mais quand tu drafts, on voit Dust Legion Dreadnought, là, qui est un bateau 4-6 de vampires. On voit tout autour l'espèce de nuage noir que je te parlais, là.
Ou
Shadowhead Caravel, tu sais, le mot est dans le nom de la carte, Shadowhead. Il y a tout le temps des espèces de nuages noirs autour d'eux. Puis ça, si vous voulez savoir d'où les nuages noirs viennent, là, c'est la carte Vampire Revenant, c'est-à-dire que quand ils meurent, ils reviennent en spirit.
Oh, puis ils font un petit nuage noir.
C'est un spirit flying. On voit, c'est un genre de nuage. Le revenant, c'est un genre de nuage noir qui flotte autour du bateau. C'est vraiment concept. Mais moi, ce que j'aime, c'est leur aspect, là. Tu sais, comme Legion Landing, Legendary Enchantment qui coûte un blanc. Quand il arrive en jeu, tu fais un token vampire 1-1. Puis si t'as attaqué 3 créatures ce tour-ci, tu le flips, ça devient le Adento de First Fort. C'est le premier fort que les vampires ont créé sur le continent de Ixalan. Là, ils s'en viennent sur Ixalan pour réclamer le Immortal Sun. Ouais, ça, ce laine-là, c'est le fun parce que tu tapes, c'est un laine, ça te fait un blanc, mais tu peux taper 3 pour créer des vampires. Moi, je joue tout le temps ça dans
C'est très joué.
C'est probablement la carte des vampires d'Ixalan la plus vue. Ouais. Et le Adento Vanguard, un blanc. Un colorless, un blanc pour un 1-1, Kakata qui devient un 3-1. Tu peux payer 4 de vie pour le rendre indestructible. Ça fait encore référence au fait qu'ils sont durs à tuer, les vampires. Moi, j'adore ça parce que souvent, là, comme quelqu'un va. Moi, j'ai déjà vu un gars, il me fait je te fais Lightning Ball sur toi. Là, il dit ah non, je vais le faire sur ton Adento Vanguard à la place. Puis là, je suis comme ok, ben je paye 4 vies. Lightning Ball, ça fait 3 de dégâts.
Mais ouais, c'est ça.
Mais ça a valu à peine parce que mon Adento Vanguard, là.
Ouais, mais c'est ça, c'est qu'à long terme, moyen long terme, c'est plus avantageux de perdre 4 vies que de.
Oui, parce que la plupart des vampires, tu sais, le Légion Landing, ils te font des 1-1 lifelink.
Ouais, c'est ça. Ils se massent entre eux autres.
J'avais parlé de notre épisode sur Standard, le Champion of Dust, là, que tu pouvais piger plein de cartes, là. C'est vraiment nice. Un de leurs bateaux, là, le Conqueror Galleon, une fois que tu attaques avec, là, c'est un 2-10. C'est super difficile à crew. Là, les bateaux, c'est des véhicules. Quand tu le flippes, il devient le Conqueror Foothold. Dans le fond, c'est cool parce que vous regarderez leurs bateaux. Ils ont tout le temps comme des genres de ben, on voit mal parce que c'est sombre. Mais ça dit, par exemple, sur Forsaken Sanctuary, « In the Galleon Grand Cathedral, Conquistador swore vows of fate. » Leurs bateaux ont des cathédrales montées sur le bateau. C'est pour ça qu'ils sont gros. Puis là, quand ils arrivent, quand ils débarquent, ben comme le village se construit autour de la cathédrale qui était l'ancien bateau. T'sais, c'est quand même vraiment concept. C'est vraiment nice. Un des aspects que les conquistadors sur le continent de Tezzeron, ils ont créé beaucoup de réfugiés. C'est ça qui est devenu les pirates.
Okay.
Les pirates dans Ixalan sont rouge, noir et bleu, les couleurs Grixis. Comme par exemple sur la carte Swashbuckling, qui est un aura qui donne plus de ace à une créature. C'est écrit les pirates de la coalition sont les descendants des réfugiés de la Legion of Dust. La Legion of Dust, c'est les vampires. Et ils sont eager for revenge, tu comprends? Les pirates, ils se sont rassemblés. Ils ont un truc, ça s'appelle le High and Dry. Ils ont fait une île en collant plein de bateaux. Si vous regardez sur les cartes des pirates, là, on voit beaucoup les High and Dry en arrière-fond. Par exemple, sur Sailor of Mean, sur Contract Cling, pour un prix. Sur la cité flottante de High and Dry, vous pouvez trouver n'importe quelle commodité dont vous avez besoin, notamment un pirate qui... Contract Killing, c'est t'engages un pirate pour destroy target creature. High and Dry, dans le fond, là, ils ont pris plein de bateaux et ils ont collé ensemble. C'est un peu comme dans Waterworld.
Ouais.
Ça, c'est l'île où tous les pirates sont rassemblés. Il y a 3 flottes principales de pirates.
Okay.
T'as la flotte de l'amiral Beckett Brass. Ça, le jouer là en Commander. Un colorless, un blanc, un bleu. Un colorless, un bleu, un noir, un rouge. Et les couleurs Grixis. C'est un pirate 3-3 légendaire qui donne +1/+1 à tous tes pirates. Et à la fin de ton end step, tu gagnes le contrôle d'un target non-land permanent. Tu sais, c'est un pirate à voler un.
Que t'as fait un dégât par 3 ou plus de pirates.
Ouais, fait que tu sais, dans le fond, tu peux voler les cartes des autres.
Ce que tu disais, là, on peut voler le Immortal Sun.
Tu voles le Immortal Sun.
Il y a un autre pirate que je préfère à celle-là, c'est le.
Moi, je vais en parler dans l'autre flotte. Moi, je voulais parler. L'amiral Beckett Brass, c'est la Fathom Fleet Fathom Fleet. Il y a plusieurs cartes là, qui ont le mot Fathom Fleet. Ça veut dire, c'est la flotte. Fathom, ça veut dire c'est vraiment cru.
Ouais.
C'est la flotte de vraiment cru. Fathom Fleet Captain, là, un colorless, un noir pour un 2-1 avec menace. À chaque fois que tu attaques, tu peux payer 2 pour créer un token 2-2 de pirate qui attaque aussi avec lui.
Le pirate, ils ont menace
aussi.
Le pirate le plus joué là, qui fait partie des Fathom Fleet, c'est le bon vieux parce que le Fathom Fleet ont des gobelins avec eux.
Le Fanatical Firebrand,
un rouge, un ace. Tu peux le sacrifier pour faire un. Moi, je le joue dans mon deck de mono rouge depuis tout le temps. Là,
ouais, c'est ça.
Depuis 2018. Moi, ce que j'aime, là, les gobelins dans Ixalan, ils étaient sur le continent d'Ixalan. C'était des genres de singes dans la jungle. C'est pour ça qu'ils ont tout l'air à des singes, les gobelins. Okay. Puis les pirates les ont domestiqués.
Cool. Pis c'est devenu des gobelins.
Mais c'est des gobelins.
C'est jamais été des singes. Au lieu d'avoir des singes sur Ixalan, il y a des genres de gobelins
sauvages.
Sauvages qui habitent dans le top des cactus.
OK.
puis là, pas des cactus, des palmiers.
OK.
Puis les pirates les ont domestiqués. Puis là, c'est devenu. Il y a beaucoup de cartes de gobelins dans Ixalan que c'est souvent les. ça remplace les moussaillons, dans le fond.
Puis,
tu sacrifies ton Firebrand pour qu'il donne un dégât. Fait que dans le fond, c'est. Puis là, vous regardez le dessin, là, il est plein de mèches.
Ouais, il n'y a pas de feu.
Mais c'est pas du feu, c'est des mèches. Là, il est probablement plein de sacoches de poudre. Puis là, dans le fond, tu pitches ton gobelin, puis il explose, il fait un dégât.
Ah, les gobelins.
Ouais, c'est comme dans le film.
Ils sont expendables, tu vois.
Non, mais j'allais dire dans le Seigneur des Anneaux.
Oui. Quand il pitch.
Il y a beaucoup de dynamique. Ben, pour les pirates, c'est les trésors.
Raid.
Oui, c'est vrai.
À chaque fois que tu attaques ton raid, l'autre flotte, c'est la flotte du capitaine Lannery Storm, un humain pirate légendaire, deux colorless, un rouge. Ça, c'est les pirates qui sont juste rouges et bleus.
OK.
Ben, il y a des pirates rouges et des bleus, mais ils n'ont pas, pas de nom.
C'est sa gang, hein?
Hein?
Jace?
Non. Même je vais l'expliquer plus tard, tu vas voir. Okay. Lannery Storm, c'est la pirate aventurière, la Ace. À chaque fois qu'elle attaque, tu crées un treasure. Les treasures, c'est un token artefact que tu peux sacrifier pour
faire un mana.
Puis elle, à chaque fois que tu sacrifies un treasure, elle gagne plus 1, plus 0. La carte Up dans Ixalan, que moi je joue dans mon deck mono bleu, là, on voit un genre de pirate. Up, c'est un instant. Scry 1, puis j'ai une carte. Ça a l'air de rien, cette carte-là, mais dans des decks de contrôle, là, c'est vraiment bon parce que ça casse à la fin du tour de l'autre. Tu check qu'est-ce que tu vas piger. Si t'aimes ça, t'as la pige tout de suite. Puis là, ton tour après.
Non, mais aussi pour avoir des instants dans ton graveyard. Ça, c'est bon.
C'est très bon. Darfleet. Ah oui, les Darfleet. Ça, c'est les orques surtout qui sont rouges et noirs. C'est une autre gang de pirates. Le Darfleet Captain, c'est leur plus fameux. Là. Un rouge, un noir pour un 2-2. À chaque fois qu'ils attaquent, il gagne plus un pour chaque autre pirate qui attaque.
C'est ça.
Darfleet Neckbreaker, qui est un orc pirate. Les pirates qui attaquent, ils gagnent tous plus 2, plus 0. Ça, c'est vraiment les pirates style agressif, violent.
Ouais, qui s'entraident, là, si on veut.
Ouais, moi, je le joue beaucoup en standard. C'est très bon. Darfleet Daredevil, un colorless, un rouge pour un 2-1 first strike. Mais ce qu'il fait, c'est que quand il arrive en jeu, c'est encore le concept, les pirates qui volent des choses, tu vas chercher un instant ou un sorcery dans le graveyard d'un de tes adversaires. Nice. Puis tu peux le jouer sans aucun égard pour la couleur de mana.
Non, mais faut que tu le payes en Converted Mana Cost.
En Converted Mana Cost. Okay. Fait que moi, je joue mono rouge, puis là, contre un deck de contrôle avec mon Darfleet Daredevil, je vais y voler une de ses cartes. C'est vraiment le fun. C'est one shot, tu sais, parce que c'est un instant ou un sorcery. Mais c'est le bon vieux concept. Là. Moi, j'aime bien qu'avec les mécaniques de jeu, ils ont réussi à démontrer c'est quoi un pirate, tu sais. Walk the Plank, ça, c'est. Walk the Plank, on voit sur le flavor text.
Une scène classique.
La scène classique, là, le pirate qui se fait avancer sur la planche au-dessus des requins. Deux colorless noirs pour destroy target non-merfolk creature, parce que les merfolk savent nager.
C'est encore lisse, c'est ça.
Le pirate des Darfleet, le capitaine des Darfleet, c'est le Captain Thorn, qui est un orc. Ça dit le flavor text. Là. Quand Captain Thorn veut ajouter un nouveau bateau à sa flotte, il dit à l'équipage de ce bateau un simple trechois, soit que vous me suivez ou que on vous jette dans la mer.
T'es avec moi ou contre moi, je connais ça, cette affaire-là.
L'autre flotte, c'est les bleus et noirs, les Dead Eye. Ça, c'est de là que vient notamment le Hostage Taker. Un colorless, un bleu, un noir, un 2-3, un pirate, quand il rentre en jeu. Tu exiles une target artifact ou créature que ton adversaire contrôle. Et tu peux ensuite la caster, cette carte-là que tu viens de voler, pour un nombre de manacos. Tu t'en fous de la couleur, là. Il y a beaucoup de cartes, le pirate, que tu voles les choses. Ouais, Hostage Taker, là, c'est très, très joué.
Ben oui.
C'était très, très joué en 2018, quand Ixalan. 2017-2018, quand Ixalan était sorti. Moi, je le joue en Commander, c'est tout le temps bon, Hostage Taker, quand tu as du bleu et noir, là.
J'ai remarqué, là, les amirals, capitaines, puis tout ça, c'est toutes des femmes, jusqu'à maintenant.
Non.
Les deux premiers,
mais non, mais Hostage Taker, c'est juste
une
pirate.
Non, mais je parle les deux. Les deux boss, là. Gatsu, elle, puis.
Ouais, Storm, puis Beckett Brass. Ils ont fait
ben, c'est cool.
C'est cool.
Je suis juste en train de montrer.
By the way, les sets Magic, depuis une couple d'années, là, 50% des personnages montrés sur la carte sont les femmes.
Pis c'est correct, là. Ouais. Ça change fuck all. Si ça se trouve, c'est pas vrai que ça change fuck all. C'est que ça amène. On en a parlé dans le premier épisode ou dans le deuxième. Ça amène, justement, la moitié de la population humaine à faire Chris, c'est le fun Magic. Puis je me vois dedans.
Moi, je vois qu'il y a plus de filles qui jouent
maintenant. Parce que je me vois dedans, je suis capable de
se projeter sur le cadre. Yep,
faut dire aussi que la culture geek
a beaucoup changé.
A beaucoup changé.
Les, les jeunes de 20 ans, là, c'est beaucoup moins juste des gars. Tu sais.
Tant mieux.
Les deux dernières cartes de pirates que je tiens à mentionner, là.
Ouais.
Chart of Course, un sorcerer, j'en ai souvent parlé. Chart of Course, un colorless, un blanc, un bleu pour un sorcery. Tu piges deux cartes, puis tu dois discarder une carte si t'as pas attaqué qu'une créature. Ça, ça fait référence à la mécanique Raid que j'ai parlé. Ou bien sûr, le Curious Obsession, là. Je vois pas le mot.
Bon,
ça vient de Revolve of Exalan. J'en ai parlé dans comme 15 épisodes sur Revolve à date.
On a parlé au début de
ce que j'aimerais mentionner, là, moi, je le joue dans mon mono rouge. Dans mon sideboard, j'en mets 4. Le Treasure Map.
Oui.
C'est un artefact qui coûte 2 colorless. Tu peux taper 1 pour scryer 1. Puis là, tu mets un counter dessus, un marqueur. Dans le fond, tu marques où ce que tu es rendu dans ta carte au trésor. Fait que ça, c'est bon parce que ça te permet dans. Tu sais, tu vas pas piger de laine quand tu joues rouge. Là. Fait que ça te permet de filtrer tes laines en les envoyant en dessous de la library. Puis une fois que tu as eu 3 counters dessus, tu flips ton Treasure Map. Excuse-moi, à chaque fois que tu scryes, tu crées un trésor. Un trésor token que tu peux sacrifier pour faire un mana avec. Fait que tu sais, t'envoies tes laines en dessous, puis c'est tes trésors.
Non, pas de suite. Non, c'est pas ça.
Non, c'est pas ça.
C'est que tu fais quand un,
quand tu flippes, tu crées 3 trésors.
Hey, je joue cette carte-là, puis je le lis mal en ondes. Ça fait dur, mon affaire. Mais ce qui est le fun, c'est ça. C'est quand il flippe en Legendary Land, tu crées 3
trésors
d'un coup. Puis là, après ça, ton Legendary Land, il donne un colorless mana.
C'est,
surtout,
c'est pas un Legendary Land, c'est juste un land.
C'est un land, fait que tu peux en avoir 2.
Ça, c'est fou, ça.
Fait que tu sacrifies tes trésors pour piger une carte. Ça, le problème dans rouge, là, c'est tout le temps que tu manques de gaz au milieu de la game. Treasure Map, là, contre un deck de contrôle, là, ça change.
Puis en plus, quand tu sacres à piasseur, puis en plus, ça rajoute le Sacrifice à Treasure, Draw a Card. Ah non, mais t'as peur, c'est pas pareil. Parce que j'imagine que si tu utilises Sacrifice à Treasure, tu pourras pas.
Pourras pas quoi? Non, tu peux pas utiliser la mana.
Ça va être un ou l'autre.
On va retourner. Ça finit mes pirates. On va retourner dans le passé. J'avais mentionné que Hazard avait ramené le Immortal Sun parce qu'il trouvait que la gang de vampires c'était pas cool. Il a ramené le Immortal Sun. Il a amené le Immortal Sun sur le continent de Ixalan. Puis là, l'alliance entre les Merfolk puis les humains. Ils ont développé, là, c'est la carte Spire of Orasca, c'est les cités d'or dans le fond. Tout le set de Revolve of Ixalan se passe sur la cité de Orasca, c'est les cités d'or. Ça, c'était la civilisation, l'alliance entre les humains et les Merfolk. Le problème, c'est que dès qu'ils ont eu le Immortal Sun, la guerre a pogné entre les deux. Puis, t'avais là. Comme la carte Star of Extinction, c'est ça que ça représente, là, 5 colorless, 2 rouges, Destroy Target Land. Star of Extinction deal 20 damage to each creature and planeswalker. Ça, c'est à un moment donné, c'est dans la gang des humains, là, leur empereur, il est devenu fou un peu là, avec le Immortal Sun. Puis ça l'a créé un gros cataclysme, ça l'a enterré la cité de Orasca. Où il y a le Immortal Sun, tu comprends? Fait que là, c'est pour ça que tout le monde cherche le Immortal Sun dans le set d'Ixalan.
Il est comme caché.
Ouais. Les humains qui sont basés sur les Aztèques, ils se sont comme dispersés sur 3 cités. Donnez-moi 5 secondes. Je suis perdu dans mes notes. Ixalan est compliqué à expliquer parce que
il y a beaucoup d'affaires, comme tu disais.
Ça tire dans toutes les directions. Ouais, t'as la cité de Pachatoupa. Ça, c'est les blancs. Tu sais, j'avais dit les humains des dinosaures sont blancs, rouges et verts. La cité de Pachatoupa, c'est les plaines. Eux, ils vénèrent les Kinjali. Donc, c'est tous les dinosaures qui sont blancs. On voit là sur la carte Kinjali Caller, qui est un cleric qui réduit tous les dinosaures de 1.
Ah, j'aurais aimé ça.
Le peuple du soleil vénère le soleil sous 3 aspects. Les Kinjali, eux, c'est le soleil levant qui a créé les humains à partir de l'argile et les a cuits jusqu'à temps qu'ils aient eu avec la chaleur du soleil. Tu sais, ça revient tout le temps, là, l'espèce de vénération envers le Immortal Sun. Là. Ils trippent tout là-dessus. T'as les Tilonali qui sont en montagne. Ça, c'est surtout les Raptors, les Velociraptors, les Tyrannosaures. The People of the Sun Empire. Ça, c'est le Burning Sun. C'est dans lequel le soleil est à son plus haut.
Au zénith.
Ouais, c'est au zénith. C'est là qu'il est le plus chaud. Puis le soleil couchant, c'est la cité, le Ixali. on voit le Xali Skeeper, Xali Diviner. Ça, c'est tout ce qui est les brontodons, ouais. Là, les dinosaures végétariens à long cou.
Ou des gros dinosaures vraiment immenses.
Ouais, eux sont en forêt surtout.
C'est le fun de les faire voler. Là.
Puis, ils ont fait une alliance ensemble. Ils sont devenus le Sun Empire pour retrouver le Immortal Sun. Ils ont réussi à invoquer le Gishtat Sun Avatar, qui est un genre de gros tyrannosaure rouge, vert, blanc, 5 colorless pour un 7-6 Trample Vigilance Haste. Tu sais, on voit que les dinosaures, ils ont plusieurs couleurs. C'est l'alliance de ces trois peuples-là. On voit sur la carte RD Veteran. Pour l'Empire du Soleil, le Immortal Sun est le symbole de leur identité nationale. Lorsqu'ils vont le retrouver, leur empire va pouvoir fleurir à nouveau. Le problème, c'est que les vampires cherchent le Immortal Sun, les pirates cherchent le Immortal Sun, et ceux qui gardent le Immortal Sun, c'est les Merfolk. Les Merfolk, qui sont appelés les River Herald, ils vivent dans les rivières sur Ixalan, c'est pour ça qu'ils sont rouges, bleus et verts. Leur leader, c'est Tishana, Voice of Thunder, 5 colorless, un vert, un bleu. Son Power Toughness, c'est le nombre de cartes dans ta main, parce que tu sais, du vert et du bleu, ça te fait piger beaucoup de cartes. T'as pas de maximum and size. C'est vraiment le fun, c'est le 4-Lock Commander. Puis quand elle rentre sur le battlefield, tu piges un nombre de cartes pour tout le nombre de créatures que t'as.
Quand même, hein?
Oh oui, c'est vraiment le fun.
Ouais, c'est vraiment un bon commander.
Les Merfolk, on en a parlé souvent, là. On voit sur Sworn Guardian, pour les River Herald, le Immortal Sun est un objet de terreur et de dévastation. Parce qu'ils se rappellent, tu sais, comme les Ligats, ça l'avait créé, ça l'avait brisé leur alliance.
Autant que les humains, ils vénèrent le Immortal Sun, autant que les Merfolk, ils font comme ils crissent. Ils ont comme un respect.
Ils vénèrent pas les Immortal Sun, ils
le
cachent.
Exactement. C'est qu'autant que les autres le vénèrent puis veulent le trouver, autant qu'eux veulent le cacher le plus possible.
Les Merfolk, ils font invoquer toutes leurs cartes, là, vous remarquez, il y a tout ça du brouillard autour d'eux. C'est pour cacher le soleil. Merfolk Mistbinder.
Comme ils disent.
Tu sais, t'as des cartes comme Merfolk Mistbinder, un vert, un bleu, tout est Merfolk gang +1/+1. Les decks de tribal Merfolk, c'est vraiment le fun à jouer. Le Mistcloaked Herald, c'est un imbloquable parce qu'il se cache dans la brume. Nous, je le joue en mono bleu, vraiment le fun.
Dans notre draft, ça a sorti.
Une carte qui est plus connue parce qu'elle est sortie dans un set qui est juste jouable en moderne. C'est le Merfolk Sovereign, mais qui est basé sur les Merfolk de Ixalan. Moi, je le mets dans mon deck de Merfolk en moderne. Il coûte 3, mais c'est tous tes Merfolk gang +1/+1. Puis tu peux le taper pour une target Merfolk. Ouais. Peut pas être bloqué ce tour-ci. Cette carte-là est peu connue parce qu'elle est sortie dans un set qui ça s'appelle Explorer of Ixalan. C'est un board game. Avec des cartes de Magic dedans, ouais. C'est vendu genre à Toys R Us puis peu de magasins. Mais tu peux les commander en single.
Yeah. Ah ouais?
Oui.
Mais le jeu, c'est le jeu en tant que tel.
Ah, le jeu, c'est de la merde, là. Moi, je vous en achetez pas ça. Achetez Merfolk Sovereign et les autres cartes qu'il y a dedans, là. Ouais. C'est un jeu, c'est dans le fond, c'est t'achètes une boîte. Toi, t'avais acheté le Plane Chase, je pense.
C'est dans le même style. Non, mais ça, c'était juste des grosses cartes.
Oui, mais ça, Explorer of Ixalan, c'est la même chose. Là. Tu joues comme des grosses cartes. Puis, il y en avait sorti un pour Amon Kett aussi, où t'as un maître de jeu qui joue Nicole Bolas. Puis, les autres, il faut qu'ils amènent leur deck pour jouer contre. Chaque année, en plus de sortir plein de sets, Wizard of the Coast sort plein de board games.
Mais sont-ils fun ou sont toutes plates?
Je les ai pas joués. Plane Chase, c'est le fun, mais les autres, ils ont des mauvais reviews. Fait que j'y touche pas qu'un drôle de 10 pieds. Les cartes Merfolk étaient vraiment jouées en standard. Là. Jade Light Ranger, un colorless, deux verts. Quand elle arrive en jeu, il explore deux fois. Ça, fait que ça devient comme un 4-4 vraiment rapidement.
En fait, c'est trois-là. Le Jade Light, puis le Merfolk, Branch Walker, puis le Wild Growth Walker.
Ils vont ensemble.
C'est les trois qui vont dans les solitaires.
Les Merfolk, leur pouvoir, c'est des Shapers, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire des élémentales, comme le Wild Growth Walker, un colorless, un vert, qui est un élémental 1-3. À chaque fois que tu explores, ils gagnent +1/+1 counter, puis tu gagnes 3 vies. Fait qu'ensemble, ça escalade vite. Les Merfolk, eux, ils cherchent là, les ruines, leur cité perdue, c'est Askenta. C'est la carte Search for Askenta, un Legendary Enchantment, un colorless, un bleu. Au beginning de ton upkeep, tu regardes les cartes sur le top de ta librairie, tu peux en mettre une dans ton graveyard. Puis si t'as 7 cartes ou plus dans ton graveyard, tu le transformes.
Ça peut aller vite.
Ça devient le Askenta de Sunken Rune. Ça, cette carte-là est trop bonne. Là. C'est un mana bleu, mais tu peux taper 3 pour checker les 4 premières cartes de ton library. Tu révèles une non-creature non-end card, généralement un instant ou un sorcery, puis tu peux la mettre dans ta main. Tu vas généralement jouer ton Askenta Sunken Rune à la fin du tour de ton adversaire. Bref, les Merfolk, eux, leur job, c'est d'empêcher les gens de découvrir le Immortal Sun.
Mais eux, ils ont rien que deux couleurs, finalement. Les Merfolk.
Bon, il nous reste-tu beaucoup de temps pour que je fasse la finale? Ah, oh, on est correct. Dans Rival avec Zalan, c'est là que ça fait comme un crescendo. Là. Chez les vampires, celui qui va découvrir la cité de Ascanta, c'est Mavren Fate Dusk Apostle. Moi, je le joue dans mon deck de vampires. C'est un 2 colorless, un blanc pour un 2-2 Legendary créature vampire. Ça, c'est le chef de l'église des vampires. À chaque fois que tu as un vampire qui n'est pas un token qui attaque, ton Mavren Fane, il te crée un Vampire Token. Il explose
mais
vraiment
c'est
rapidement.
Un ou plus.
Mais il va pas t'en faire deux.
Tu peux pas en créer deux.
Tu peux juste en créer un, mais avec tes vampires lifelink de touch, t'attaques à chaque tour. Moi, ce que j'aime, son flavor text, ça dit. Tu sais, j'avais dit comment il faisait des jeûnes. Là. Ça dit pendant son jeûne, le Blood Fast, que ben ça, il a détruit les instruments de navigation sur son navire et a navigué son bateau seulement par la foi afin de retrouver le immortal.
Ça a-tu marché?
Ben oui, c'est ça. Ma vraie fin.
Wow.
Ma vraie fin, c'est le capitaine, le chef des vampires qui trouve le Immortal Sun. Mm. Chez les Merfolk, c'est Kumina, Tyrant of Oraska. C'est le premier qui va se rendre. Kumina, c'est un Merfolk qui était comme le second lieutenant. Tu sais, j'avais dit, les Merfolk, leur job, c'était d'empêcher les autres de trouver le Immortal Sun parce que ça fout la merde. Kumina, lui, ça dit sur la carte Overflowing Insight, 4 colorless, 3 bleus, tu piges cette carte. Ça dit la vérité est venue à Kumina comme le torrent d'une grande rivière. La seule façon de garder les ennemis loin du Immortal Sun, ouais, c'est d'en prendre lui-même possession. Fait qu'il devient le Kumina Tyrant of Oraska, qui est une carte très jouée en Commander. C'est un Legendary Merfolk, un colorless, un vert, un bleu, un 2-4. C'est vraiment drôle. Tu peux le taper ou taper un autre Merfolk, puis il peut pas être bloqué ce tour-ci. Tu peux taper 3 Merfolk, tu piges une carte. Puis sinon, tu peux taper 5 Merfolk, tu mets un +1/+1 sur toutes tes Merfolk. Il explose vraiment vite, Kumina. On voit là sur les cartes comme Golden Guard. Ça, c'est une fois que tu as pris le contrôle de la cité d'Oraska, là, les affaires que tu peux faire avec, comme ça, je joue ça beaucoup en Commander. Si vous cherchez des artefacts à mettre dans n'importe quel deck, là. Golden Guardian, c'est un golem 4-4 pour 4 Defender. Tu peux pas attaquer avec. Sauf que tu payes 2. Il va se battre contre une créature de l'autre bord. Puis s'il meurt, tu le flippes. Puis là, ça vient le Gold Forge Garrison. Nice. On voit dans le fond, la cité a fait des genres de gros golems. C'est un land qui te fait 2 colorless mana ou tu peux taper 4 pour créer un golem 4-4.
Fait qu'il se transforme. Ben, il devient comme.
Ça devient comme.
C'est sa deuxième forme.
Sa deuxième forme, c'est qu'il devient une usine à faire des golems.
Il est comme une fin. Ouais, c'est ça.
Retli, c'est le Planeswalker qui représente l'Empire du Soleil, là, les humains qui contrôlent les dinosaures. Dans le set d'Ixalan, elle était 3 colorless, un rouge, un blanc. C'était un Planeswalker qui créait des dinosaures 3-3. Elle a réussi à trouver le Immortal Sun. Elle est devenue le Retli Radiant Champion. Dans Rival avec Zalan, elle devient un vert blanc. Carte très forte. Pour sauver du temps, je ne veux pas la mentionner trop long aussi, mais elle était attirée sur le plan de Ravnica dans War of the Sparks. C'est un des Planeswalkers que tu peux jouer. Puis elle a amené ses dinosaures avec elle. Elle, ce qu'elle a fait quand elle a pris le compte. Parce que, je voulais mentionner Rival avec Zalan. Ce qui est cool, c'est que dans le storyline, il y a juste une fin, c'est celle où Vraska se sauve. J'en avais parlé dans l'épisode 28, là, elle a volé le Immortal Sun avec le Planar Bridge. Mais t'as d'autres fins alternatives qui est représentée dans Rival avec Zalan. C'est quand, que, par exemple, les vampires découvrent le Immortal Sun, quand que Huatli prend le contrôle des Immortal Sun. Il y a des fins alternatives. Là. Elle, c'est ça, c'est quand la cité de Oraska est sortie de terre par elle. Elle a invoqué les Elder Dinosaurs. On voit sur la carte Huatli Radiant Champion, là, sa carte de Planeswalker. Vous voyez en arrière d'elle. Tu vois le tyrannosaure à 3 têtes. Ça, c'est Zakama Primal Calamity. C'est le plus gros des dinosaures. 6 colorless, un rouge, un vert, un blanc. Pour un 9-9 Vigilance Reach Trample. Quand il rentre sur le battlefield, tu untaps toutes tes lands si tu l'as casté.
What?
Fait que dans le fond, ça t'a coûté 9 le caster. Puis là, une fois qu'il arrive en
là,
jeu.
Tu peux déjà faire son 1, tu sais, 3 power. Hein.
Ben, tu peux faire ses 3.
Ah, ouais. Ben oui, tu peux faire
parce
les 3.
Parce que t'as tapé les 9. C'est chacune des têtes fait une affaire différente. Comme c'est la vrai. Tête rouge, deux colorless, un rouge, elle fait 3 dégâts sur une target créature.
Tu peux faire littéralement les 3.
Deux colorless, un vert, détruit un artefact ou un enchantement. Deux colorless, un blanc, tu gagnes 3 vies.
Ben oui.
Puis là, cette carte-là est juste à but, là, en Commander. L'autre est beaucoup joué en standard. Là. Ça, c'est le Elder Dinosaur vert, Galza Primal Hunger, 10 colorless, 2 verts pour un 12-12 Trample. Le problème, c'est que l'avantage, c'est que elle a un rabais de X égal au power total de toutes tes créatures quand tu arrives pour la caster. Moi, j'ai déjà vu des Galta caster autour de 3 ou 4. Parce qu'il suffit que tu aies un total de 10 de power en jeu.
Ça peut aller vite. Hein?
Ça peut aller très vite. Dans le fond, les autres pirates qui ont essayé, là, j'avais parlé de Engrat dans l'épisode 29. Ça, c'est le Minotaur pirate qui est tombé sur Ixalan par accident. Lui, il représente, il y a quelques Planeswalkers qui se ramontent sur Ixalan par accident, puis ils peuvent plus partir à cause du Immortal Sun. Engrat, c'en est un. La carte Hijack, là, Trapped on Hijack, c'est une autre carte de pirate que tu voles les affaires avec. Sorcery, gain control of target artifact or creature until enough turn. Donc, ça dit dans le flavor text, là, il est emprisonné sur Ixalan. Le Planeswalker Engrat, c'est dans le fond, il cherche à péter le Immortal Sun pour partir. Tu te rappelles sur notre épisode sur la War of the Spark, on mentionnait qu'Engrat était peut-être du côté de Nicole Bolas parce que sa carte, son Planeswalker dans War of the Spark, il crée des Hamas. Mm-hmm. Mais en fait, moi, je pense que il est du bord du Gatewatch parce que toutes les mécaniques Engrat sur Ixalan. Sa carte sur Revolt of Ixalan, c'est un moins 3, gain control target creature until enough turn. Puis son hijack, gain control target. Fait que je pense qu'en fait, c'est que.
Il prend contrôle
des zombies de Grébolas. Ouais. Petite rectification
peut-être,
aussi.
Peut-être, en effet.
Mais finalement, la vraie.
Mais je pense que son cas n'est pas réglé à lui.
Non, son cas n'est pas réglé, on va encore le voir. Mais finalement, celle qui réussit à la fin à se pousser avec le Immortal Sun, c'est le Vraska, qui est une gorgon des Golgari sur Ravnica. Ça, c'est mon storyline favori dans Ixalan, on va finir Vraska. Là-dessus. Vraska Relic Seeker, qui est un Planeswalker vert et noir, on la voit en pirate sur la proue d'un bateau. Sur la carte Vraska Contempt, qui
j'aime
est très
jouée. J'aime beaucoup cette carte.
Oui, cette carte-là est très jouée dans les decks de contrôle. C'est un instant, 2 colorless, 2 noirs. Exile une créature ou un Planeswalker, puis tu gagnes 2 de vie.
C'est
une des cartes les plus jouées en ce moment. Moi, ce que j'aime, c'est cette carte-là. Ça marque aussi l'arrivée de Vraska sur Ixalan.
Hey, target life, become one.
Vraska est envoyé sur Ixalan par Nicole Bolas pour voler le Immortal Sun. Mais là, vu que le Immortal Sun, tu peux pas te sauver d'Ixalan, c'est une prison. Mais Nicole Bolas, j'en avais parlé dans d'autres épisodes, il y a le Planar Bridge, qui est un portal. Fait que dans le fond, c'est que son plan, c'est qu'elle va sur Ixalan, elle trouve l'Immortal Sun, puis elle passe dans le portal pour l'envoyer sur Ravnica. La carte Vraska Contempt, c'est comment Vraska a trouvé un bateau. On voit qu'elle étrangle un genre de vampire, puis elle le transforme en pierre. Elle pétrifie. Ça dit dans le flavor text, « It wasn't long before the tavern of Iron... » Ça n'a pas été long que dans les tavernes de High and Dry, tu sais, qui est l'île des pirates, était plein de rumeurs à propos d'un nouveau capitaine qui pouvait changer des gens en pierre avec seulement son regard. Dans le fond, elle a pogné un bateau de vampires, puis c'est devenu... Si vous voyez sur la carte, Vraska Relic Seeker, la figure de proue, c'est le capitaine du pirate qu'elle a transformé en pierre, puis elle l'a mis comme figure de proue.
Ouais.
C'est vraiment nice. Le Tomatic Compass, c'est l'artefact qui coûte 2 colorless, qui permet de trouver la cité de Horaska. C'est un instrument que Nicole Bolas lui a donné pour retrouver le Immortal Sun. Fait qu'elle avait un avantage sur les autres. Parce que, tu sais, les Planeswalkers sont tout avantagés. C'est pour ça que c'est elle qui, finalement, va se pousser à la fin avec le Immortal Sun. Les autres, ils peuvent pas... Tu sais, c'est juste des mortels, à part les vampires, là, mais je veux dire, ils peuvent pas se sauver d'Ixalan. Vraska avait une longueur d'avance sur les autres. Elle va trouver, en cours de route, Jace Cunning Castaway. Jace Cunning Castaway à la fin de l'histoire d'Amonkhet, je n'avais parlé dans notre épisode 8 où ce qui s'était fait battre par Nicole Bolas est rendu amnésique.
Ouais.
Il s'est planeswalké pour se sauver, il s'est échoué, dans le fond il s'est comme un Robinson Crusoe, il s'est échoué sur Ixalan.
Puis il peut pas sortir de là.
Sa carte dans Ixalan, Jace Cunning Castaway, c'est un Jace amnésique, il sait pas qu'il est planeswalker. Mais il est pas capable de se pousser. C'est Vraska l'a reconnu parce que Jace, il vient de ben, il a été longtemps sur Ravnica. Okay. La carte, quand il va découvrir le Immortal Sun, il va avoir le Flood of Recollection, qui est un sorcery qui monte Jace, qui regagne la mémoire.
Mais ça a l'air de faire mal, la mémoire.
Oui, c'est...
Ben, c'est pas ça va vite. Hein?
C'est tout son passé qui revient.
Ça rentre. Mastermind, de la mémoire.
Mastermind Acquisition, on voit, c'est un sorcery, deux colorless, deux noirs, où ce qu'on voit Vraska qui fait passer le Immortal Sun à travers le Planar Bridge. Cette carte-là est vraiment le fun. Là. Sorcery, tu choisis soit que tu cherches à librairie pour une carte, n'importe quelle.
C'est un Demonic Tutor.
C'est un Demonic Tutor, mais le plus fort qu'elle a de Demonic Tutor, parce qu'elle utilise le Planar Bridge, c'est Choose a Card. Tu choisis une carte que tu possèdes en dehors de la game. Puis tu la mets dans ta main. Another piece of nefarious puzzle qui s'est écrit dans le flavor text.
Mais ça, à la fin, ça, tu pourrais aller, je pourrais aller m'acheter un booster, aller me prendre une carte là, ramener.
Ouais, mais généralement, ce que les gens font avec des cartes comme c'est ça, c'est qu'ils s'amènent un gros comme un sideboard du sideboard. Tout ça pour dire que c'est la.
Je veux dire, quand c'est écrit, quand tu peux aller chercher une carte from outside the game, moi, je pensais que tu pourrais juste aller dans ton sideboard, là. T'as 15 cartes puis d'autres.
Ouais, j'imagine dans les gros tournois, c'est ça, ça veut dire.
Ça doit,
moi, quand je joue Mastermind Acquisition chez nous, c'est.
Mais en théorie, non, mais je veux dire.
Reste assis, là.
Je vais dans la bibliothèque.
Je m'en vais
dans la bibliothèque. Exactement.
Ou, parce que c'est ça qui est cool avec cette
carte-là. Parce qu'il y a Karn qui fait ça aussi.
Ouais, Karn fait ça. Puis il y a plusieurs. Il y a pas ça la mécanique Wish, là. C'est-à-dire que tu vas chercher une carte.
Ouais.
Comme la Living Wish, ou Gunning Wish, ou ces affaires.
Ben, pour finir, mon truc d'Exalan, c'est comme ça que ça finit. C'est que Vraska se pousse avec le Immortal Sun.
Puis on connaît la suite.
Bon, la suite, c'est War of the Spark. Allez voir notre épisode 28 et 29.
C'est littéralement la suite. C'est tout de suite après.
Ça, oui, après Xalan, c'est.
Ravnica.
Non, il y a eu Dominaria avant, mais après ça, il a fait Guilds of Ravnica, Ravnica of Gilligent, War of the Spark.
Mais c'est.
C'est la suite, c'est le Immortal Sun qui est rendu sur.
C'était la dernière pièce du puzzle pour arriver
Il y avait besoin de son Immortal Sun. Les Eternal de Amonkhet, allez voir notre épisode sur Amonkhet.
Donc,
et le Planar Bridge.
C'est ce qui résume.
C'est un long épisode, mais j'espère que vous avez apprécié.
Mais tu sais, il y a du jus, hein.
J'ai même pas tout couvert.
Ben non, sûrement.
Je suis allé vite, là.
Ben, on reviendra.
On fera un part 2.
Ben oui. Fait que je vous remercie de nous avoir écoutés. C'était bien le fun. Ouais. Merci à Andy. Merci à Jason. Écoutez nos autres épisodes. C'est disponible sur notre page Facebook. Allez liker ça.
Partagez.
Podbean.
Google Play.
Name it.
Tout. On est là partout.
Fait que c'est ça. Puis oubliez pas aussi, on a aussi de la merch, des chandails, des crayons, des tasses. Les dildos sont toujours en chemin. Sinon, il y a l'Abyss aussi, qu'on veut le remercier d'être nos collaborateurs. Puis là-dessus, je vous souhaite de n'être jamais, mais jamais, Manascrew.
Tu veux participer à l'évolution de Production Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E, ou écris-nous à podcast@icloud.com. Fais partie de l'aventure Productions Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com.